Vous écoutez IDFM, il est 18h.
Bonsoir, vous êtes bien sûr IDFM, bienvenue dans notre émission Entre chiens et loups, l'émission culture d'IDFM avec Claude Lévy. Émission exceptionnelle ce soir, dans la mesure où nous avons plusieurs invités, et pas des moindres, vous allez le constater. Ce soir, je vous propose une émission de haut vol. Vous allez comprendre. Une émission de culture, bien sûr, mais cette fois-ci de culture scientifique, de culture technologique, de recherche, mais il sera aussi question d'éducation, d'humanisme, d'éthique, de vision d'avenir. Mes invités sont donc Monsieur Jean-Yves Le Gall, qui est actuel président du Conseil d'orientation stratégique de l'Université Paris-Saclay, qui a été pendant une quinzaine d'années, vous nous préciserez un peu les choses, président du CNES, du Centre National d'Études Spatiales, président d'Ariane Espace et président, j'en oublie sans doute encore, de l'Agence Spatiale Européenne. C'est bien ça, Monsieur Le Gall ?
Président du Conseil de l'Agence Spatiale Européenne, mais pour le reste, donc, j'ai été président du CNES pendant les 8 dernières années et auparavant président d'Ariane Espace pendant 12 ans.
Voilà, donc je vais vous parler de haut vol, on y est. Et puis aussi, bien sûr, la puissance invitante ici, c'est Muriel Touati. Muriel Touati, que nous avons connue pendant des années et que nous avons eu le plaisir d'avoir au micro et à l'antenne ici, qui était responsable de l'Institut Technion France, un institut de recherche aussi qui a aussi ses racines en Israël et qui nous reçoit dans son nouvel environnement, l'Institut de recherche OnePoint. Nous avions prévu d'avoir une autre invitée qui sera là un tout petit peu en nombre chinois, si j'ose dire. Et il s'agit de Catherine Bréchignac qui n'a pas pu nous rejoindre. Catherine Bréchignac qui est totalement associée au projet d'institut que dirige Muriel Touati. Catherine Bréchignac qui est tout simplement l'ancienne présidente du CNRS et le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Ma chère Muriel, bonsoir et merci de nous recevoir près du Trocadéro, près de la Tour Eiffel, dans ce magnifique ensemble de bâtiments qui doit dater du début des années 1900, lorsque se développaient de manière fulgurante toutes les audaces de la technique et de la science appliquée. Nous allons parler de OnePoint et de son institut installé ici même, dans l'architecture qui est restée très vivante, à la fois ancienne et contemporaine, et je voulais tout simplement vous demander ce qu'est cette entreprise OnePoint et en quoi l'institut que vous dirigez est associé et lié à cette histoire de la science et de la technique. Muriel Touati, OnePoint.
Bonjour, bonsoir plutôt à tous les auditeurs et ravi de vous retrouver mon cher Claude. Effectivement, on a passé de longues interviews ensemble quand je dirigeais la représentation, vous l'avez dit, du Technion en France et en Europe francophone. Et puis évidemment, comme vous le dites aussi, depuis 2 ans et demi maintenant, j'ai rejoint cette très belle maison, et je l'appelle maison et ce n'est pas anodin, qui est OnePoint, en tant que partenaire éducation, recherche et innovation. OnePoint s'inscrit, vous l'avez très bien dit, vous êtes ici chez nous, dans ce bâtiment Eiffel de toute beauté qui surplombe le Trocadéro et la Tour Eiffel et où s'est créé, puisque c'est l'ancien siège historique des PTT, où s'est créé OneNano et le Minitel. Vous l'avez très bien dit, ce tracé du passé pour écrire le présent et puis pour dessiner le futur, c'est exactement ce qu'est OnePoint. Plus simplement, OnePoint est un architecte des grandes transformations qui accompagne le secteur privé comme le secteur public dans toutes les transformations autour du digital, du numérique, mais aussi sur le plan culturel et bien évidemment humain, parce que chez OnePoint, nous considérons que la technologie n'est qu'un moyen et que l'humain est bien évidemment au cœur du réacteur et la finalité de tout. Et chez OnePoint, qui a été créé il y a 20 ans par David Layani, un prospectif qui est en anticipation a subodoré que le monde allait changer, que la technologie allait effectivement avoir une place prédominante. Comment gérer cette transformation? Comment maintenir l'humain au cœur du réacteur? Et comment faire en sorte d'accompagner la société, les organisations, les industriels, les entreprises, l'écosystème en général dans ces transformations? Et il a monté cette société OnePoint, qui était à la genèse un cabinet de technologie et qui a, au fil de l'eau, au fil des années, eh bien, s'est développé, et donc de la technologie s'est enrichi avec de la stratégie, de l'opérationnel, de la recherche, de l'innovation, du design. Nous sommes en capacité aujourd'hui d'accompagner sur tous les thématiques sectorielles et de marché, et dans toutes les compétences métiers, eh bien, tous les acteurs que je vous ai cités, que ce soit les grands groupes, les entreprises, les start-up, l'écosystème académique, les ministères, les États, etc., etc.
Voilà, un fantastique élan, et ce qui est fulgurant, c'est la rapidité de la croissance d'une telle entreprise et de votre implication. Alors, on associe dans cette maison OnePoint à la fois la recherche, mais aussi le service aux entreprises. Comment les entreprises elles-mêmes peuvent intégrer toutes ces nouvelles technologies, ces des nouveaux concepts, adapter en permanence la vie réelle avec les potentialités qui se présentent. Alors, comme nous avons la chance d'avoir ici avec nous Jean-Yves Le Gall, je vous ai un peu parlé de son expérience professionnelle, de ses expériences professionnelles, des fonctions qu'il a pu occuper au titre du CNES, du Centre National d'Études Spatiales, Ariane Espace évidemment, et au Conseil d'Administration de l'Agence Spatiale Européenne. Nous allons essayer de mieux vous connaître, Monsieur Le Gall, en précisant, est-ce que les choses ont toujours été faciles? Est-ce que le petit Jean-Yves que vous étiez, qui avait ses rêves de jeunesse, rêvait un jour d'être peut-être astronaute, ou bien mathématicien, ou bien physicien, ou bien président d'un très très grand organisme de recherche internationale? Jean-Yves Le Gall.
Vous savez, je ne crois pas, enfin pour ma part, aux carrières dessinées à l'avance. Je crois que la vie, c'est une somme d'opportunités. Alors bon, il y a un fil conducteur. Il se trouve que j'avais 10 ans en 1969 quand l'homme a marché sur la Lune pour la première fois. Et à cette époque, la quasi-totalité des gens de mon âge avaient envie de faire quelque chose dans le spatial. Puis ensuite, bon, ben, les choses se sont faites différemment. Et moi, j'ai fait des études que je qualifierais de relativement classique, puis des écoles d'ingénieur, ensuite un doctorat, et puis je me suis tourné vers l'espace parce que j'avais toujours cette passion héritée de mon enfance, et puis après, de fil en aiguille, les choses se sont faites comme elles se sont faites, mais je n'avais en aucune façon de plan de carrière établi, parce que je suis convaincu que on ne peut pas prévoir les choses elles se font un peu seules, et même aujourd'hui, si vous voulez, quand je regarde l'avenir, ben c'est un peu comme en fonction des opportunités et des circonstances.
Oui, donc cette première marche sur la Lune, vous étiez devant votre écran peut-être à 10 ans, et vous êtes dit, il y a quand même quelque chose à faire là-dedans. C'était un rêve. Comment vous ressentez ça avec le recul?
Oui, je crois que bon, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est l'un des événements qui a probablement le plus marqué l'histoire de l'humanité. Mais avec quand même, quand on construit sa réflexion, les années 60, il y a quand même des marqueurs très forts. Les souvenirs que j'ai, bon, qui sont anciens, puisque ça remonte en ce qui me concerne à plus de 50 ans, finalement, il y avait trois marqueurs sur les années 60 qui étaient la guerre du Vietnam, malheureusement, la course à la lune, et puis en toile de fond, l'explosion du rock'n'roll. Et je me souviens très bien, mais avec des émissions, même des livres qui ont été publiés, formidable livre de Jacques Tizio, À l'assaut de la lune, qui décrit de façon remarquable l'ambiance en Floride, à Titusville, qui est la ville qui fait face au Kennedy Space Center, avec de jeunes astronautes au volant de corvettes rouges qui roulaient sur les freeways pendant que la radio distillait les disques des Rolling Stones. Et c'est vraiment une ambiance tout à fait positive, et avec dans ce contexte, si vous voulez, la guerre du Vietnam, qui était quand même un drame, avec des images chocs qui 50-60 ans plus tard existent encore, la petite fille qui court devant les bombes du napalm, les choses comme ça, et avec la conquête spatiale qui était quand même quelque chose de très positif dans un contexte qui ne l'était pas forcément.
En effet, on a un président d'Ariane Espace qui est très rock'n'roll, on va le voir tout à l'heure. Il se trouve que Catherine Bréchignac, lors de l'inauguration de l'Institut One Point, il y a seulement quelques jours, elle nous confiait quelque chose de très important, puisque c'est une très grande physicienne spécialisée dans les nanotechnologies, donc secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, donc vraiment le sommet des sommets, et elle nous confiait très simplement que ça n'avait pas toujours été si simple pour elle, et que elle se sentait... Elle avait été très mauvaise en maths jusque à l'âge de 11-12 ans, la révélation est arrivée un jour par un professeur. C'est important de rencontrer un professeur, Muriel Toiti, qui vous ouvre un avenir de chercheur alors que vous étiez au fond de la classe.
Absolument, que ce soit un professeur ou que ce soit aussi un mentor finalement, quelqu'un qui vous ouvre le champ des possibles, qui fait de vous que vous pouvez rendre l'impossible possible et qui a envie effectivement de vous faire de vous un explorateur du monde, un bâtisseur des temps modernes et puis voilà, vous indiquer ce chemin. Mais je crois qu'au-delà de ces grands maîtres, de ces éclairants, de ces phares éclairants, il faut aussi beaucoup compter sur soi. Moi, je sais que dans mon histoire, j'ai beaucoup compté sur moi-même pour pouvoir être et devenir et pour pouvoir en effet aussi... bâtir ce que j'ai pu bâtir à mon petit niveau pendant ces 25 dernières années. Et en parlant de maître et de professeur, j'aimerais, si vous me l'autorisez, Claude, quand même souligner que nous avons eu récemment un prix Nobel de physique français, et j'aimerais rendre hommage ici à quelqu'un que je connais bien et que Jean-Yves connaît aussi très bien, qui est le professeur Alain Aspect, physicien, et qui a remporté aux côtés d'un Autrichien et d'un Américain eh bien ce prix Nobel de physique que nous attendions et qu'il attendait aussi d'ailleurs, je dois dire, et pour cause, et c'est largement bien mérité. Donc toutes nos félicitations en effet à Alain Aspect, qui est en effet aussi un grand pédagogue, un maître, un professeur. J'ai eu beaucoup ces derniers jours d'étudiants qui suivaient assidûment les cours d'Alain Aspect, et tous disent à l'unanimité que c'est un être absolument exceptionnel, très humble aussi, et qui a ouvert aussi le champ des possibles.
Alors, un grand prix Nobel. On a aussi un autre invité. Il n'est pas tout à fait dans la pièce dans laquelle nous nous trouvons, chez One Point. Il est un de vos prédécesseurs, aussi bien à vous, Jean-Yves Le Gall, que à vous, Muriel Toiti, ou bien à Catherine Bréchignac, qui est un peu loin. Je vais vous proposer une phrase de lui. Il a été... il a eu beaucoup d'importance pour chacun d'entre vous, en fait. En 1920, il crée avec un certain nombre d'autres ce que vous avez su prolonger, Muriel, c'est le Technion à Haïfa. C'est un grand physicien, il a beaucoup travaillé, il a aussi eu un Nobel de physique. Donc, et c'est Albert Einstein qui nous propose la formule suivante. Le plus beau sentiment, du monde, c'est le sens du mystère. Celui qui n'a jamais connu cette émotion a les yeux fermés. Alors j'aimerais avoir votre commentaire sur ce que peut représenter pour un chercheur, quelqu'un qui a travaillé dans les plus hautes technologies comme vous, Jean-Yves Le Gall, ce que représente pour vous cette formule d'un autre collègue physicien, non, qui n'est rien moins qu'Albert Einstein, sur ce qu'est ce mystère. Est-ce que c'est un moteur pour la recherche? On posera la même question à Muriel.
Oui, je crois que les gens qui font de la recherche sont guidés par le fait que justement, ils essaient de comprendre ce qui jusqu'alors n'est pas compris. Et donc, qu'il y a cette part de mystère. Alors après, ça se décline dans le monde moderne sur différents aspects. Bon, il y a le mystère du chercheur qui se dit, tiens, les choses se passent comme ça, essayons de comprendre. On en a eu une illustration, malheureusement, récemment, au moment de la pandémie de Covid. Il a fallu comprendre ce qui apparaissait comme mystérieux. Et puis après quelques semaines et quelques mois, on a mis en équation le virus, on a compris comment les choses se passaient, on a créé les vaccins et on a surmonté cette pandémie. Donc ça, c'est, je dirais, le mystère pour les aspects scientifiques techniques. Mais je crois que dans le monde moderne, l'humain, évidemment, a toute sa place. Et aujourd'hui, ce qui aussi nous guide, c'est arriver à mettre en place des organisations humaines qui permettent justement de faire face à ces mystères de la technologie. Et donc, là aussi, parfois, de s'attaquer à des mystères de comportement des uns et des autres, arriver à travailler ensemble, et on le voit au quotidien, quand on essaie de créer des communautés, regardez la construction de l'Europe, la construction de l'Europe, il faut vraiment s'y atteler de façon extrêmement volontariste, parce que parfois, on a du mal à se comprendre. J'avais de mes prédécesseurs au CNES qui disait de façon un peu amusante, il faut, pour travailler avec les Allemands, il faut bien comprendre que les Allemands ne sont pas des Français qui parlent allemand. Et cette boutade, ça s'applique partout. Donc arriver à se mettre dans la peau de son interlocuteur pour mieux le comprendre et pour là aussi faire avancer ce qui semble mystérieux. Parfois, on a des collègues qui ont des comportements, des prises de position qu'on ne comprend pas. Eh bien, c'est en comprenant leur psychologie, en se mettant à leur portée, en se mettant peut-être à leur place, qu'on fait avancer les choses et qu'on arrive à construire, je prends l'exemple de la construction européenne, qu'on arrive à construire l'Europe, mais ça peut s'appliquer dans bien d'autres domaines. Pour ma part, j'ai passé de nombreuses années à travailler avec la Russie, puisque j'avais quand même été beaucoup occupé de la coopération autour du Soyouz. Alors malheureusement, depuis le 24 février, bon, elle est arrêtée et je crois que son avenir est très incertain. Mais ce que nous avions fait en 20 ans avec les Russes était absolument incroyable. Mais là aussi, je peux vous dire que quand vous débarquez à la fin des années 90 à Baïkonour, où personne, pratiquement aucun occidental n'est jamais venu et qu'il faut remettre en état des installations avec des gens qui ont été pendant des années coupés de l'Occident et autres, bon, ben, y a une part de mystère qu'il faut arriver à remonter et faire marcher ces coopérations.
En effet, on va poser la même question à Muriel, qui est très inspirée, je pense, par le mystère. Einstein disait que celui qui n'a pas ce sentiment-là du mystère a les yeux fermés. Vous qui avez les yeux grands ouverts sur l'avenir, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
J'adore le mystère. Alors Einstein a dit cela. Il a bien raison. Il a dit aussi que l'imagination était plus forte que le savoir. Et je pense que c'est aussi lié. Et il était accessoirement aussi très nul en maths comme notre amie Catherine. Et on a vu le résultat. Et effectivement, vous l'avez très bien dit, Claude, fondateur du Technion en 1924 et premier président des Amis du Technion en Allemagne. Alors oui, le mystère, évidemment. Mais le mystère fait partie intrinsèquement de l'étincelle de la vie. Il faut du mystère dans la vie et, notamment en recherche, c'est toujours la quête de l'inconnu. Mais je rejoins totalement Jean-Yves parce qu'à un certain moment, le chercheur, s'il est dans cette quête de l'inconnu, s'il est stimulé par cette notion de mystère à élucider, presque obsessionnel d'ailleurs et à juste titre, à un certain moment, il faut que la recherche aboutisse. Il faut chercher. Évidemment, parce que sans chercher, on ne trouve pas, mais il faut aussi arriver à trouver. Et je pense que la puissance, finalement, de la recherche ne peut être que dans l'hybridation, dans la complémentarité des compétences et dans la pluridisciplinarité. Et accepter l'autre dans ce qu'il est différent de soi est majeur. Alors, la recherche française travaille beaucoup avec la recherche européenne, on le sait, mais aussi internationale. Mais c'est vrai que parfois, on a cette impression, nous, en France, culturellement, de croire que nos amis européens ou à l'échelle internationale ne font que parler une autre langue, mais ils sont fondamentalement dans leur socle de valeurs français. Or, ce n'est pas le cas.
On va reprendre cette discussion là dans un tout petit instant, mais j'aimerais qu'on aille vers un autre mystère, celui qui a été d'ailleurs choisi par Catherine Bréchignac. Elle nous propose d'écouter une gymnopédie d'Éric Satie. On est vraiment dans le mystère avec cette musique, la troisième gymnopédie dans une version un peu particulière, puisqu'elle est ce n'est pas au piano, mais pour guitare et violoncelle. Un concert enregistré au Conservatoire Royal d'Édimbourg. Nous allons reprendre notre émission après ces notes de Éric Satie vers d'autres mystères et puis aussi vers les réalités que nous rencontrons. Vous écoutez bien Entre Chiens et Loups sur IDFM avec Claude Lévy et ce soir j'ai le grand plaisir de vous faire partager un moment de haute intensité avec nos invités Muriel Toiti responsable de l'Institut de recherche One Point et Jean-Yves Le Gall, président du Conseil scientifique de l'Université Paris-Saclay, où on a vraiment la crème de tous les chercheurs en sciences, et ancien président du CNES et d'Ariane Espace. Catherine Bréchignac est un peu en nombre, un peu éloignée, mais très présente malgré tout avec nous. Alors, vous êtes chacun impliqué à la fois dans la recherche, mais aussi dans la formation et dans l'intégration de la recherche dans la société, dans les entreprises. Alors j'aimerais que, à partir de vos expériences professionnelles, les uns et les autres, comment vous mettez en œuvre justement, comment vous passez des idées de la conception à la mise en œuvre. Parce que le réel, il a ses lois aussi, hein, qui s'imposent à nous. Alors, on va peut-être commencer par Muriel Toiti, pour qui, évidemment, l'Institut est un outil de laboratoire de recherche. Comment vous faites ça ici, dans cet organisme qui est vraiment les pieds sur terre?
Absolument. Écoutez, d'abord, j'ai été beaucoup inspirée, je dois le dire, hein, pendant 17 ans de contact effréné, passionné, passionnel avec les chercheurs du Technion, et puis également la culture du Technion qui est profondément ancrée dans l'innovation et le développement de solutions. Mais encore une fois, développer de l'innovation et développer des solutions technologiques est profondément ancré dans une culture locale, une culture d'un pays. On sait que quand vous êtes dans le rien n'est acquis, vous êtes confronté à une zone d'inconfort et d'adversité, ce qui est un peu l'écosystème israélien. Pour s'auto-financer, quand il n'y a pas de ressources naturelles, eh bien l'innovation est l'or noir ou le pétrole. Et donc cette quête acharnée autour du fer et de la valorisation et du transfert de technologie pour développer des solutions est donc le point d'orgue en Israël. Dans le cadre de OnePoint, qui est un, encore une fois je le répète, cabinet de conseil, de technologie, de stratégie, qui couvre en fait dans son écosystème vertueux, je le disais tout à l'heure, tous les spectres des grandes transformations, toutes les thématiques métiers aussi, il m'a semblé important, quand je suis arrivée il y a 2 ans et demi, d'enrichir en fait le modèle du cabinet dit conseil, que n'est pas OnePoint, parce qu'il est beaucoup plus que ça, mais en tout cas le cabinet conseil traditionnel qui lui donne du service et facture pour ce service et donc facture du temps homme, donc de la ressource humaine.
J'aimerais rappeler, pour revenir tout à fait les pieds sur terre, un tout petit instant, dire que David Layani, qui est un très jeune entrepreneur, a créé OnePoint il y a très peu de temps, et j'aimerais que vous nous en disiez quelques mots, Buriel.
Avec joie, parce que c'est un garçon que, pour lequel j'ai une immense affection et respect, et que je connais depuis de nombreuses années, qui m'a finalement proposé de le rejoindre, et je n'ai pas hésité. David Layani est un visionnaire, alors pour le coup, un autodidacte, et c'est parfois extrêmement intéressant qu'un autodidacte, même oserais-je dire souvent, puisse effectivement être toujours dans la quête et la conquête du dépassement de soi, parce que lui, justement, n'a rien à perdre, si j'ose dire, et donc prend tous les risques pour pouvoir mener à bien sa vision et notamment son entreprise. Et en effet, en 2002, puisqu'il y a maintenant 20 ans, et on fête d'ailleurs nos 20 ans cette année, puisqu'on est en 2022, il subodorait avant l'heure, dans une démarche très prospective, que le monde allait changer, je le disais en introduction tout à l'heure, et qu'il fallut donc accompagner les acteurs pour répondre au plus près aux enjeux de la société et donc du marché. Et il a créé cette boîte qui s'appelle OnePoint, un point, et ce un point n'est pas anodin. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas anodines chez OnePoint, sa dimension humaine, son horizontalité. Moi, j'appelle ça une richesse humaine, le fait que chaque collaborateur est protagoniste de son récit professionnel, et tous autour d'un point, eh bien, se retrouve. L'intelligence collective et collaborative est très importante chez OnePoint. Le 1 plus 1 font 3, voire effet des multiplicateurs, est majeur. Et comme David Layani est quelqu'un d'extrêmement ouvert et a à cœur et à raison d'attirer des talents de tous les horizons, je ne suis pas consultante et pourtant il m'a proposé de le rejoindre. Proposer une initiative comme l'Institut qui est disruptive dans un cabinet conseil, c'est-à-dire raisonner dans un modèle économique valeur, travailler avec des chercheurs, enrichir le modèle avec de la recherche, recruter des chercheurs, créer des laboratoires communs avec les meilleurs acteurs de l'écosystème académique pour travailler l'éducation, pour travailler justement le fait de la proximité entre le monde de l'entreprise et le monde de la recherche, comment un chercheur peut travailler sereinement et de façon décomplexée avec le monde privé, mais aussi comment le monde privé, c'est-à-dire les acteurs de OnePoint, peuvent aussi sereinement et de façon authentique et décomplexée, travailler avec le monde de la recherche. On est ici dans du bilatéral, hein. Ça ne va pas dans un sens. Et c'est ce qui se passe dans l'Institut OnePoint. D'ailleurs, j'ajoute que Jean-Yves Le Gall est membre du conseil scientifique que j'ai monté dans le cadre de l'Institut OnePoint, où nous attelons au quotidien à faire en sorte, sur le plan éducationnel, culturel, de rapprocher secteur public et secteur privé et travailler de la recherche pour que celle-ci assure ce tracé du fondamental, rapidement à l'applicatif, jusqu'à la mise en marche sur le marché.
Alors voilà, c'est exactement la trajectoire qui nous intéresse. Et à propos de trajectoire, on en a un grand spécialiste, hein, de balistique, de très haut vol. Comment est-ce qu'on passe, Jean-Yves Le Gall, vous qui avez dirigé des entreprises considérables, des entreprises mondiales, évidemment, qui ont affaire avec des projections à très long terme. Comment est-ce qu'on arrive à être à la fois au tout près du sol, j'ose dire, et puis en même temps toujours en prospective et en recherche, en projet? Comment est-ce que vous avez réussi à faire ça, monsieur Jean-Yves Le Gall?
Vous savez, je crois que finalement, c'est toujours une affaire de bon sens, parce que quand vous dirigez une entreprise ou un établissement public, bon, vous avez besoin d'avoir un produit. Alors, dans le cas d'Ariane Espace, c'était des lanceurs. Dans le cas d'un établissement public comme le CNES, c'est des projets de recherche, des choses comme ça. Donc, il faut que ça marche. Ensuite, vous avez des clients, donc que le client soit un opérateur commercial ou des gouvernements, ce sont des clients, donc il faut être bon commercial, entre guillemets, pour vendre le produit. Et puis, bon, bien sûr, l'argent, c'est le nerf de la guerre, donc il faut que tout ceci se fasse avec des budgets tenus ou des comptes équilibrés. Donc ça, c'est les trois fondamentaux, technique, commerce et finance. Ensuite, au quotidien, quelle pensée vous anime? Ben, moi, j'ai toujours fait la part des choses entre, finalement, une référence au passé, parce que j'ai eu la chance de prendre des sociétés où j'ai eu des prédécesseurs absolument extraordinaires dans le domaine spatial, si vous voulez. Vous regardez Hubert Curien, Jacques-Louis Lyon, ce Frédéric Dallest, Jean-Marie Luton, plus près de nous, Jean-Jacques Dordain, sont des gens qui vraiment ont fait l'Europe spatiale. Donc vous vous intéressez au passé, vous intéressez au présent, c'est-à-dire vos collaborateurs qu'il faut motiver. Il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis, aller les voir, non pas parce que vous allez régler des problèmes, parce qu'il faut être modeste, mais parce que le fait d'y aller montre que vous intéressez à ce que font les choses, les gens, et à partir de là, ça les surmotive. Et puis aussi, regarder l'avenir. Et parfois, je dois dire que cette démarche passé, présent, avenir n'est pas toujours bien compris, parce que quand vous regardez l'avenir, ben, ça vous oblige à dire, tiens, il y a des gens qui font des choses de façon différente, regardons ce qu'ils font.
Vous parlez des étrangers, des Américains, par exemple?
Des Américains, des Asiatiques, enfin, peu importe. Même en France, des gens qui ont des approches un peu disruptives, et ça, on est quand même parfois formaté pour dire, ça ne marchera jamais. Dans le domaine spatial, il y a eu un exemple au quotidien, beaucoup de gens riaient sur différents changements qui sont intervenus. Bon, ben, aujourd'hui, ces changements portent leurs fruits. Voilà, donc quand vous regardez le futur, c'est toujours un peu suspect, et de la même façon, si vous faites référence au passé, il y a un certain nombre de gens qui vous disent, mais vous êtes nostalgique, le monde a changé, ainsi de suite. Bon, certes, le monde a changé, mais il n'en demeure pas moins que nous avons la chance d'avoir de grands anciens, entre guillemets, qui ont quand même construit une Europe spatiale, qui dans le domaine des lanceurs avait réussi à ce que faire que Ariane damait le pion aux Américains. Moi, j'ai accueilli, il n'y a pas si longtemps, en Guyane, patron de Boeing, qui disait, c'est quand même incroyable, les États-Unis ont marché sur la Lune et nous sommes obligés de venir lancer nos satellites avec Ariane. Bon, voilà.
D'ailleurs, on pense à l'entreprise d'Elon Musk actuellement avec SpaceX qui justement est un peu dans cette disruption, si j'ose dire.
Oui, il est tout à fait dans cette disruption et avec bon, un succès évident aujourd'hui. Alors après, il faut l'apprécier avec différentes grilles de lecture, différents prismes. Mais aujourd'hui, incontestablement, ce qu'il a fait, bon, force de constater que ça marche, même si parfois on aurait préféré que les choses se passent différemment. Mais il ne faut pas être frileux, il faut se dire, bon, ben, voyons ce qu'il fait. Et quand j'entends dire parfois que si on doit s'inspirer de ce qu'il fait, il ne faut pas être suiviste, ainsi de suite. Je suis désolé, il y a quelques siècles, lorsqu'on a inventé la roue, ben, tous les fabricants de traîneaux se sont mis à faire des carrioles avec des roues, parce qu'ils avaient bien compris que le traîneau s'était un peu, je dirais, dépassé. Donc là, c'est pareil, il faut être à l'écoute. Mais si vous voulez, c'est extrêmement important. Et donc, pour résumer, je pense que quand on dirige un grand groupe, il y a ces trois aspects technique, commerce et finance, et une temporalité passé, présent, avenir.
Voilà, un beau programme du temps, en tous les cas. Peut-être on peut imaginer l'espace différemment, l'espace planétaire, évidemment, soyons modestes aussi. Vous qui avez voyagé l'un et l'autre dans le monde entier, qui connaissez très très bien les pays, nous, en France, on est à la fois un peu ambigu, à la fois on se sent toujours un petit peu au-dessus de la mêlée, et pas qu'au rugby, et puis aussi on se sent... un peu dévalorisée. Est-ce que la France, avec vos outils, laboratoires, instituts de recherche, universités, grandes entreprises, comment est-ce que vous, est-ce que la France a encore une place dans cette compétition européenne, à la fois européenne et mondiale? Je vais poser la question à Muriel et ensuite on aura l'avis de Jean-Yves Le Gall. Muriel Toiti.
Encore heureux, sinon ce serait la faillite, si j'ose dire. Bien évidemment, on fait en France, encore une fois, une excellente recherche fondamentale. C'est bien dommage qu'elle ait parfois, et même souvent, des difficultés, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, à accoucher d'elle-même. Je pense que c'est un problème profondément culturel, encore une fois. Quand on est... je faisais le compario avec Israël. Quand on est dans une zone du rien n'est acquis, autrement dit, qu'on n'est pas financé par le public et qu'on doit prendre le risque de gérer l'incertitude et d'aller finalement à la conquête du monde pour pouvoir auto-suffire l'innovation qu'on a envie de développer, ça change tout. En France, on n'a pas cette culture-là. Un, du dépassement de soi. Deux, de la prise de risque. Trois, de la gestion de l'incertitude. Quatre, de cette culture justement aussi des levées de fonds. Il n'y a pas de venture capitaliste fondamentalement inscrit dans notre écosystème. Aller chercher les fonds là où ils sont et notamment dans les marchés privés, même si on doit dépasser nos frontières de l'Hexagone, on ne sait pas faire. On reste finalement très dépendant de la relation fusionnelle avec l'État et justement avec des outils comme la BPI. On multiplie les couches administratives avec un certain nombre d'organismes, d'outils autour de l'innovation comme les pôles de compétitivité qui font un travail de surcroît remarquable, mais pas pour nécessairement accompagner à scalabiliser les pépites. C'est plus du réseau et encore une fois, ça reste beaucoup dans l'entre-soi, ce qui est très bien aussi culturel. Les SAT, les sociétés d'accélération de technologie également qui ont été initiées sous l'ère de Geneviève Fleurazeau. Voilà, c'est multiplier finalement des outils, c'est bien, mais c'est trop et ça ne suffit pas. Je crois que l'éducation à l'entrepreneuriat, que moi j'appelle plutôt la condition de l'être entreprenant, doit être quelque chose qui doit être absolument instauré depuis le plus jeune âge dans notre pays.
Nous allons venir à l'éducation, mais j'aimerais avoir l'avis de Jean-Yves Le Gall sur le diagnostic de un peu de pesanteur que souligne la dépendance à l'égard de l'État, vous qui avez vécu dans ces grands organismes publics, Jean-Yves Le Gall.
C'est vrai qu'il y a de la dépendance, mais c'est vrai que nous avons quand même un pays où il y a des talents absolument extraordinaires et très souvent, pour les valoriser au niveau mondial, c'est un peu une affaire d'organisation. Regardez l'exemple de l'Université Paris-Saclay. On a passé des années, chaque 15 août, lorsque le classement de Shanghai est publié, la France n'était pas dans les premiers, et donc on expliquait que Shanghai ne voulait rien faire. Bon, très bien, ne voulait rien dire. Et puis Sylvie Retailleau, à laquelle il faut rendre hommage, et d'ailleurs les plus hautes autorités de l'État l'ont fait en la nommant ministre de la Recherche, cherche et l'enseignement supérieur, eh bien, Sylvie Retailleau a eu le génie de créer cette université, de fédérer les talents, et à partir de là, depuis 3 ans, Saclay est rentré dans le top 20 de Shanghai, donc 13e, 14e, 16e.
Quelles sont les formations qu'on y délivre à...
Alors, Saclay, c'est totalement, je dirais, pluridisciplinaire. Vous avez des mathématiciens, vous avez un normal supérieur, vous avez de la pharmacie, vous avez de la médecine, vous avez de la science des matériaux. Donc c'est tout à fait remarquable, première université européenne, mais le fait de l'avoir créé, ça crée un cercle tout à fait vertueux et alors bien sûr Alain Aspect a tous les mérites d'avoir ce prix Nobel, mais aujourd'hui c'est à Saclay, il y a des prix Nobel, ça va en attirer d'autres et il y a cette je dirais organisation tout à fait remarquable qui a été mise en place et qui fait que ça nous met aux avant-postes. Et là encore je dois avouer que moi j'étais parfois un peu gêné quand j'entendais dire il y a quelques années Shanghai ça ne veut rien dire, parce que quand on voyage partout dans le monde, ce qui est mon cas, eh bien lorsque vous parlez avec vos homologues, ils vous disent, mais alors, vos enfants, où est-ce qu'ils font des études, mes enfants? Et on voit bien que Shanghai...
Justement, dites-nous, comment vous avez éduqué vos enfants et dans quelles universités ils ont étudié?
Bon, si vous voulez, il faut avoir, je crois, une approche tout à fait... laisser d'abord les jeunes faire ce qu'ils ont envie de faire, et puis quand même leur donner quelques conseils, parce que ben parfois il y a un peu des faux semblants. On s'en rend compte dans les brochures parfois d'orientation, où on vous met au même niveau major de l'ENA, bon l'ENA n'existe plus, mais enfin on voit bien ce qu'on veut dire, et puis logisticien de surface, donc il faut faire la part des choses. Il y a tous ces aspects, et aujourd'hui, eh bien, on a réussi à avoir donc une université qui est au premier rang mondial, et ça, c'est absolument formidable. Mais les choses n'ont pas beaucoup changé en termes de talent par rapport à il y a 5 ans. Mais il y a 5 ans, on n'était pas dans Shanghai, aujourd'hui, on y est.
Et ben voilà. Et puis Muriel Toati va apporter sa pierre à cet édifice.
Je ne peux que rebondir sur ce que dit Jean-Yves. Connaissant bien le sujet du classement de Shanghai, puisque le Technion en fait partie, alors pas dans le top 20, mais en tout cas dans le top 100, j'ai en mémoire ce que me disait le professeur Peretz-Lavi, l'ancien président du Technion, que Jean-Yves connaît très bien, quand il venait en France et qu'il comprenait la quête effrénée qu'il y avait autour de ces classements de Shanghai. Il disait, mais Shanghai, c'est pas du tout le sujet, on s'en fout complètement. Ce qui est intéressant, c'est finalement l'innovation et la valorisation. Moi, je salue profondément l'Université Paris-Saclay, que je connais depuis des années. J'ai été une grande fervente, tant du plateau de Saclay, tant de Saclay, que de l'Université Paris-Saclay, où Sylvie Retailleau a fait... d'ailleurs, qui est venue me visiter chez OnePoint quand elle était présidente de l'Université Paris-Saclay. Je la connais depuis des années. Et on salue ses hautes fonctions aujourd'hui en tant que ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche. Et on ne peut que la saluer et saluer l'équipe et l'Université Paris-Saclay, mais aussi les prédécesseurs qui avaient fait aussi du travail pour arriver là, que effectivement l'Université Paris-Saclay aujourd'hui est 13e dans le classement de Shanghai et première en mathématiques appliquées. C'est super. Maintenant... est-ce que c'est ça qui va accélérer le champ de l'innovation et la condition de nos étudiants, chercheurs, entreprenants? Voilà, je pense qu'on a tout en France pour faire cela. Je pense qu'il faut travailler l'éducation à tout prix, et ce depuis le plus jeune âge, pour façonner nos plus jeunes à être des entrepreneurs d'abord d'eux-mêmes, pour devenir des vraies postures, s'ils le souhaitent évidemment, d'entrepreneurs, parce qu'il faut vraiment le désirer et pas simplement le vouloir. Mais en cela, pour répondre à votre question, comment accélérer le fait que la France soit une souveraineté technologique en matière d'innovation, je pense qu'on doit gagner en leadership autour de l'intra et l'entrepreneuriat, et que c'est une question éducationnelle presque exclusive.
Nous allons revenir à cette question. On entend votre passion. Je suis sûr que les auditeurs entendent votre passion pour l'éducation, pour la recherche, aussi bien à l'un qu'à l'autre. Et Muriel, vous avez choisi pour une petite respiration musicale de nous faire écouter une composition de John Coltrane. Et là, il joue cette composition « My Little Brown Book » avec Duke Ellington. On reprend notre conversation passionnante dans un tout petit instant. Thank you.
Voilà, avant de fermer le Brown Book, nous sommes toujours bien sûr sur IDFM en compagnie de Jean-Yves Le Gall et de Muriel Touati pour notre émission Entre Chien et Loup avec Claude Lévy. Et j'aimerais demander à Muriel Touati, en faisant une dernière fois appel à Einstein, qui considérait que l'école devait toujours avoir pour but de donner à ses élèves une personnalité harmonieuse et non de les former en spécialistes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe de votre grand prédécesseur? Et si oui, comment vous le mettez en œuvre ici à l'Institut One Point? Développer des personnalités harmonieuses et ne pas faire trop de spécialistes.
Très jolie citation, et il parlait aussi du maître qui avait cette responsabilité majeure d'être le phare éclairant pour ses élèves. L'harmonie, c'est majeur dans l'existence. L'harmonie, c'est cet équilibre auquel on passe une vie à être en quête d'équilibre et d'harmonie, qui passe nécessairement par d'abord l'intelligence collective, c'est-à-dire la capacité de vivre, de travailler, de raisonner, de développer avec l'autre et dans ce qu'il est différent de soi. Ça me semble extrêmement important. Et puis c'est aussi la curiosité, et c'est aussi stimuler les imaginaires, c'est aussi faire de la salle de classe, du laboratoire, une expérimentation, une cour de récréation, un terrain de jeu où vous pouvez vous laisser aller.
Récréation ou recréation?
Pareil, la récréation est aussi une recréation. Et où vous pouvez vous laisser aller à votre imaginaire, à votre créativité, sans peur, parce que vous avez réussi finalement à dégager de vous-même ce qui est éminemment majeur, c'est-à-dire cette liberté psychique qui vous permet d'agir, de faire. Et c'est ça la responsabilité d'un maître ou d'un enseignant ou d'un sachant vis-à-vis de son apprenant. C'est pour ça que chez One Point, dans le cas, d'abord nous avons développé l'école One Point, parce que One Point, au-delà d'être une maison éclairante et innovante, elle est aussi apprenante, avec des formations très singulières, très disruptives, que nous proposons à nos collaborateurs.
Dans quel domaine? Précisez de...
Dans tous les domaines qui concernent les grandes transformations, que ce soit la data, la cybersécurité, le cloud, le product management, autant de domaines très pointus, mais aussi des domaines plus soft, c'est-à-dire qui sont reliés aux compétences douces. Je suis très fière de la formation qu'on a initiée avec Centrale Supélec autour des humanités, 5 modules pédagogiques autour de la gamification qui est destinée aux collaborateurs et collaboratrices de OnePoint, mais également à nos partenaires privés dans l'entreprise. Comment je fais société par mon humanité, comment je suis dans l'écoute active, attentive, comment je conditionne mon jeu JE pour mieux basculer dans le jeu JEU de la société, de l'entreprise et dans ce nous collectif tant désiré, sachant que pour être dans le nous collectif, autant faut-il avoir un jeu JE extrêmement, ou si pas extrêmement, en tout cas plutôt solide. Et c'est ça qui fait la puissance de la créativité et de l'imagination, et qui stimule les imaginaires. C'est ça qui fait que le chercheur peut aller à la quête, à la conquête de ce mystère pour pouvoir justement accoucher de ce même mystère, parce qu'il aura cette puissance intrinsèque de cette liberté psychique, de la créativité, pour pouvoir avoir toujours un but, parce que je pense qu'il faut avoir un ou des buts pour être dans le dépassement de soi.
Je vais poser la question à Jean-Yves Le Gall, qui est maintenant très impliqué dans cet institut. Vous qui êtes membre de... Enfin, président du Conseil d'orientation stratégique de Paris-Saclay, là où se forment les plus grands spécialistes et les plus grands chercheurs de France, mais aussi vous êtes associé à de nombreuses universités. Pourquoi vous investir autant auprès de Muriel Touati? C'est peut-être une relation, ou bien c'est vraiment par intérêt pour la recherche?
Non, parce que je crois que la démarche de One Point avec la création de l'Institut est tout à fait remarquable. Muriel en a parlé un peu plus tôt. C'est assez, je dirais, unique de voir un cabinet de conseil, entre guillemets, qui met en place un tel institut. Lors de la séance inaugurale, on a eu des débats de très très haut niveau avec une vraie réflexion. Et je pense que c'est vraiment un point sur lequel il faut insister, parce que finalement, on vit dans des crises depuis quelques années, si vous voulez, en gros, peut-être depuis le 11 septembre, ça a sonné la fin de ce qu'on appelait les 30 glorieuses, une certaine harmonie, et depuis, les crises se succèdent. Mais je suis convaincu que pour comprendre ces crises, eh bien, la recherche et l'innovation sont absolument fondamentales, parce que ça permet de décrypter les signaux de la crise avec la prévision de ce qui peut se passer, donc réfléchir à l'avenir, une appréciation, comprendre immédiatement la situation, on l'a vu au moment des problèmes en Ukraine, et puis la réaction, être armé pour faire face à la crise, on l'a vu avec l'ARN messager qui a permis de juguler la pandémie.
Oui, en effet, on est à la fois dans la recherche présente et aussi dans la perspective. Muriel Touati, au cours de l'inauguration, dans votre discours d'introduction à l'inauguration de l'Institut il y a quelques semaines, vous avez employé des termes aussi peu scientifiques que possible. Vous avez parlé d'élégance, vous avez parlé d'ouverture, vous avez parlé d'authenticité, de liberté de faire. Alors j'aimerais, pour terminer, vous nous disiez comment tout ceci se met en musique ici à l'Institut One Point. Muriel Touati.
Vous venez de citer les 5 valeurs fondamentales de One Point, et qui sont, qui plus est, mes valeurs aussi. C'est donc pour ça qu'il y a harmonie, cohérence et résonance dans le fait que j'ai rejoint One Point. Une des conditions sine qua non, je vous parlais du modèle humain chez One Point et de tout ce qui s'y crée, donc l'Institut aussi, c'est d'abord l'humain. C'est-à-dire que quand on attire nos talents, et on va les chercher là où ils sont, et on recrute des talents, et d'ailleurs, ceux qui veulent nous rejoindre et qui nous écoutent peuvent me contacter, on est toujours attaché, oserais-je dire, une condition sine qua non sur ces valeurs-là. On considère que ces valeurs sont notre tronc commun, notre socle commun, qui vient prendre racine, justement aussi dans le passé. Parce que pour envisager l'avenir, et pour écrire le présent, on ne peut pas faire l'économie du passé. Le passé, c'est nos valeurs, c'est transcendantal, c'est intemporel, et il ne s'agit pas, comme le disait Jean-Yves tout à l'heure, de, quand on dit le passé, nostalgie, etc., ça n'a absolument rien à voir. C'est un tracé quasiment, oserais-je dire, initiatique, intemporel, qui prend racine dans des socles fondamentaux, dans des valeurs, et qu'on doit porter en nous. C'est presque une éthique de vie, oserais-je dire. Et les valeurs que vous citiez, l'ouverture d'esprit à 360, cette capacité de pouvoir regarder avec les yeux grands ouverts ce qu'est le monde, l'élégance de la parole, l'élégance du comportement, l'élégance qu'on a vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres, l'engagement, parce que l'engagement, il est majeur. Et on se rend compte que de plus en plus de jeunes, et c'est la génération aujourd'hui, est en quête non seulement de sens, mais aussi d'engagement. Le courage de faire, le courage d'oser être, d'oser devenir, de prendre des risques, de gérer cette fameuse incertitude dont on est si souvent confronté. Et puis, oserais-je dire, la dernière valeur, l'authenticité. L'authenticité d'être, ne pas se cacher, ne pas se mentir à soi-même et surtout pas aux autres.
Voilà un beau programme, une belle éthique d'entreprise et de formation. Ceux qui ont traversé l'histoire, Jean-Yves Le Gall les connaît bien, puisque depuis 1976, il les a connus, il les a reconnus encore cet été à Paris. Vous avez une forme d'affection pour et d'admiration peut-être même pour un groupe, Jean-Yves Le Gall.
Oui, le groupe, ce sont les Rolling Stones, parce que je suis assez frappé de voir quand même que ils traversent les âges. Je parlais tout à l'heure de mes souvenirs de la course à l'espace dans les années 60. En toile de fond, il y avait la musique des Rolling Stones et cet été, eh bien, on a entendu sur les ondes partout, Out of Time, la reprise d'un morceau qu'ils avaient sorti en 1966 et qui était toujours très populaire, très apprécié. Mais au-delà de la longévité de la musique, ce qui vraiment me sidère, c'est la longévité des membres du groupe, à commencer par Mick Jagger et Keith Richards. Alors, malheureusement, Charlie Watts nous a quittés il y a quelques mois, mais quand on voit Jagger et Richard à 79 ans, d'abord faire la performance scénique qu'ils font, 2h30 à se dépenser sans compter sur scène, et puis au niveau intellectuel, quand vous voyez leurs interviews, ils sont toujours extrêmement vifs, à la pointe des enjeux, même quand vous voyez Jagger, alors vous allez me dire, il les a chantés des milliers de fois, mais qui enchaîne pendant 2h30 40 titres, et où il ne se trompe pas sur un seul mot, on se dit chapeau, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de gens qui en 79 ans ont ce tonus, et je crois que c'est aussi un peu un exemple de longévité.
Voilà, ce sont un peu des artistes comme vous, on va les écouter, les Rolling Stones, vous qui étiez sur l'hippodrome de Longchamp au mois de juillet, au premier rang, disiez-vous, au mois de juillet dernier, Jean-Yves Le Gall était au premier rang pour ce concert des Rolling Stones. On les écoute dans Out of Time. Voilà, nous terminons sur les Rolling Stones à Paris-Longchamp et je remercie évidemment Jean-Yves Le Gall pour sa présence, son ouverture, sa prescience et sa compétence et sa générosité. Un très très grand merci Jean-Yves Le Gall.
Merci à vous et bravo.
Merci à Muriel Touati qui nous a si merveilleusement accueillis ici dans les locaux de One Point, dans la bibliothèque de l'Institut One Point. Un très grand merci Muriel.
Merci à vous, cher Claude.
Et nous saluons notre chère Catherine Bréchignac qui est retenue en province. Merci à tous. Merci à Francky qui a réalisé cette émission. Vous pourrez la réécouter en podcast sur le site de la radio idfm98.fr. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h pour une nouvelle émission Entre chiens et loups. D'ici là, portez-vous bien. Merci de votre fidélité et bonne soirée à l'écoute de nos programmes sur IDFM.